On passe maintenant à notre débat critique de la soirée qui rappellera sans doute d'excellents souvenirs à nos chers primos, puisqu'il s'agit du biopic de Madame de Sévigné qui porte le nom de sa protagoniste. Un choix finalement assez banal à l'image du film, mais je donne mon avis dans un instant. Alors, dans ce film d'1h33, Isabelle Brocard filme Karine Viard dans le rôle de la fameuse épistolière dont les lettres de l'année 1671 étaient au programme du concours d'entrée à elle à l'ENS l'an passé. On prend sa vie en cours de route, un peu comme si la vie en question ne commençait que lors du départ de sa fille, auquel on arrive très vite après un court prologue, où l'on a vu cette dernière, Françoise, que joue Anna Girardot, manquer d'être abusée par Louis XIV, qui lui en tiendra une rancœur durable, et épouser le comte de Grignan, donc la fille de Madame de Sévigné, pas Louis XIV, Grignan d'une maison ancienne mais criblée de dettes et en charge de la Provence. La suite, donc, est connue, le départ de Françoise de Grignan pour la Provence, où elle va rejoindre son mari, entame la correspondance entre la mère et la fille, dont Isabelle Brocard fait le choix de déplier toute la toxicité, en reconstruisant tout un monde à partir de ce qui manque, en comblant par exemple les lacunes, en imaginant notamment tout ce qui se joue du côté de la fille et de la marquise, devenu un personnage psychologiquement vraiment développé. C'est une vraie mise en image de l'esprit de salon, on y croise Madame de Lafayette, Pomponne, le cardinal de Rais, la Rochefoucauld. On parle de Grignan, de Lambesc, de Fontainebleau, des Rochers, c'est une mise en image intéressante, mais un peu plate finalement. Bon, déjà, après, parler de ce film, c'est faire quelque chose en sa faveur au vu de l'absence totale de promotion à son sujet. Son exploitation a commencé le 28 février, ce qui fait donc à peine 3 semaines au moment où nous enregistrons, et il ne passe quasiment plus. J'ai dû aller à l'UGC Ciné-Cité de la Cité Internationale pour y aller. Cela dit, c'était l'occasion de découvrir ce cinéma. Et j'étais seul dans la salle, voilà, une chose qui ne m'est pas arrivée depuis Le Manoir, le film avec Natou, Kemar et Ludovic, il y a 7 ans. Voilà. C'était pas si mauvais, bien sûr, hein, mais c'était pas mémorable non plus. Si le film n'est pas académique, à mon sens, il peine à rendre compte de la vivacité de l'épistolière. Il y a un manque de rythme réel, hein. La narration terriblement fragmentée n'a pas vraiment de sens et empêche de s'investir pleinement dans le film. Le jeu est plutôt bon, du moins celui des deux actrices principales, quoi qu'il arrive même à Noémie Lvovsky de jouer mal dans son rôle de Madame de Lafayette, ce que je ne pensais pas possible. La réalisation est léchée, mais en garde-t-on quelque chose pour autant. Alexia.
Alors, pour moi, j'ai été quand même un peu déçue par ce film, peut-être justement parce que je suis allée avec trop d'attentes, vu qu'on connaissait quand même plutôt bien les lettres de Madame de Sévigné. Je m'attendais notamment à voir également la relation autour de la jalousie qui existait entre Madame de Grignan et sa mère. Je m'attendais peut-être aussi à voir quelque chose qu'on avait perçu chez Madame Sévigné, qui était vraiment sa joie de vivre, sa vivacité, son humour, son ironie, tout ça qui est très fort et qui pourtant, j'ai trouvé, n'était pas vraiment frappant dans le film. Au contraire, on voyait plutôt quelqu'un de dramatique, qui n'hésitait pas à pleurer, à se désespérer. Et donc j'étais un peu déçue de ne pas voir cette joie de vivre de Madame de Sévigné aussi. Voilà, des aspects que je n'ai pas vus, qui m'ont un peu déçue, et de l'autre côté, des choses que j'ai vues, et je ne sais pas si j'aurais voulu les voir. Notamment, la relation entre la mère et la fille tourne très vite à une relation extrêmement toxique, avec vraiment de véritables drames qui arrivent entre elles, et qui m'ont semblé parfois, honnêtement, un peu exagérés. Pour ça, je pense pas que ça repose sur le jeu des actrices, mais vraiment sur des erreurs scénaristiques. Peut-être que ça arrive un peu trop vite. Pour moi, les dialogues, en tout cas, n'étaient pas toujours naturels. Les explications entre elles n'étaient pas toujours convaincantes. Et donc, en conclusion, un film qui se regarde, qui a le mérite d'adapter les lettres et d'avoir de très jolis passages de lecture de ces lettres. Je pense que c'est pas une œuvre qui est facile à adapter, donc je tiens à le noter, mais qui, quand même, globalement, m'a vraiment laissé sur ma faim.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est la première adaptation au cinéma de la vie de la marquise de Sévigné. Cassien.
Alors moi, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est aussi se poser la question, oui, de l'adaptation des lettres qui est extrêmement compliquée. Et je trouve qu'ils s'en sont pas si mal sortis parce que finalement, il y a très peu de moments de lecture des lettres. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'était plutôt pas mal. Et j'ai plutôt aimé le film à travers un regard d'historien, notamment pas de biographie de Madame de Sévigné parce qu'il y a de grosses libertés qui sont prises et qui sont justifiées en fait par le scénario. Mais plus d'historiens de la culture, notamment de la place des femmes à l'époque moderne, qui offraient justement une vision nuancée et qui n'était pas, avec une vision téléologique et actuelle sur le XVIIe siècle, mais qui montrait bien aussi les espaces de liberté que se créaient les femmes à cette époque. Et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, c'était plutôt bon. Néanmoins, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a une assez faible richesse de la mise en scène, hein, les plans sont très simples. Le jeu des acteurs est parfois à côté. Et certains personnages mériteraient d'être un peu plus approfondis. On ne les voit que passer, hein, notamment La Rochefoucauld. Je pense aussi à Butière à Butin, qui n'est pas si développé que ça, finalement. Mais je garde une note, oui, plutôt positive.
Merci beaucoup, Nathan.
Et ben moi, malheureusement, je suis en train de retomber dans le même cycle que j'avais eu pendant plusieurs semaines, il y a quelques mois, où il n'y avait aucun film du programme du comptoir que j'appréciais. Ensuite, il y a eu du mieux, et là, ça recommence, quoi, c'est terrible. J'ai vraiment pas aimé, mais j'ai trouvé ça assez soporifique. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucune idée, aucune tension. Enfin, Alexia disait qu'il y avait des drames qui étaient presque parfois too much et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment même pas... Après, je me suis endormi un moment, mais j'ai même pas... J'ai peut-être raté les drames, mais en tout cas, j'ai vraiment juste eu le ressenti en sortant qu'il s'était rien passé. Et effectivement, c'est une œuvre qui est très dure à adapter, mais parce que je pense que l'idée d'adapter une correspondance est sans doute déjà foireuse sur le principe. Ça doit être très dur. Et ici, en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas réussi. Il y a quasiment pas d'action. Il y a très peu de scènes que j'ai trouvées intéressantes. Et voilà, je pense que c'est un problème au niveau de l'adaptation. Alors je vais me permettre de parler d'adaptation alors que je n'ai pas lu les lettres l'année dernière. Voilà, je le confesse maintenant. Je le dis, je l'avoue. Pardon, Madame Berthelot, j'ai pas lu les lettres. Mais et j'en suis même à un point où au bout de 15 minutes de film, j'étais persuadé que c'était pas les lettres de l'année 71 qui étaient adaptées parce que je me rappelais pas que sa fille s'appelait De Grignan. Et du coup, je me disais, ah non, ça doit être une autre fille, c'est des années avant ou je sais pas quoi. Et je me suis tourné vers la personne qui m'accompagnait en disant, mais sa fille, elle s'appelait pas Cécile de Volanges ? Rien à voir, c'est quand même... Pour vous donner une idée d'à quel point j'étais décalé. Donc bref, mais je vais quand même parler d'adaptation. Je trouve que Madame de Sévigné manque beaucoup trop de caractère, en fait. Cassien, tu disais qu'on voyait tous les espaces qu'elle peut se créer... espace d'émancipation, indépendance, tout. Et c'est vrai qu'elle en parle à certains moments, mais je trouve que c'est pas du tout assez central dans le film. Je pense que c'est l'essentiel pour parler de Madame de Sévigné, en fait. Là, on voit pas du tout sa malice ou sa verve, sauf dans les quelques moments où effectivement il y a des lectures de ses lettres, mais c'est pas les moments les plus intéressants. Enfin, c'est vraiment les moments où elle parle à sa fille, où elle lui dit qu'elle lui manque, ce qui est très redondant au bout d'un moment. Et pourtant, quand on a un peu étudié le texte, du coup, on voit que c'est quelque chose qui transparaît vachement dans son écriture et qui est l'élément le plus intéressant de ses lettres, cette verve-là. Et parce que sinon, les 300 pages de « vous me manquez, je vous aime, vous me manquez, je vous aime, PS, vous me manquez », c'est pas ce qui donne son intérêt à la correspondance et c'est ce qui peut même la rendre lassante par moments. Et du coup, se focaliser sur ça et seulement sur ça pendant une heure et demie, et encore Dieu merci, le film est pas trop long, bah, je trouve que ça échappe pas trop à la règle et c'est vite plat et un peu rasoir, quoi. Voilà.
Alors, il y a pas mal de choses du coup dans tout ce que vous avez dit, mais pour revenir peut-être sur ce dernier point et sur le récit, moi, qui est un de mes problèmes avec le film, que j'ai pas détesté, mais que j'ai trouvé. Assez médiocre, mais au sens moyen du terme, en fait. Un de mes problèmes avec le film, donc, c'est qu'il y a cette déstructuration complète de la narration qui fait, en fait, de la vie de Sévigné une série de vignettes sans forcément de lien et qui est un peu précipitée, en fait. Donc, sans vouloir être le vieux cagneux chiant, parce que j'ai lu ses lettres, à dire « gna gna gna, c'est pas comme le livre », en vrai... Je trouve que c'est pas toujours si justifié que ça, les sauts dans le temps. Et je pense que c'est gênant qu'on connaisse ou non sa vie. Par exemple, je pense que le personnage de Bussy, il sort de nulle part. Tout à coup, elle couche avec lui. Et puis, Bussy Rabutin, donc qui est son cousin. Et puis, il manque quelque chose. En fait, moi, je trouve que les lettres, elles sont pas, effectivement, pas au cœur du film. Et là, si je vous reprends le scénario, enfin, le synopsis qui a été donné. À la presse, c'est « Au milieu du XVIIe siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante à son image, mais plus elle tente d'avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d'une relation fusionnelle et dévastatrice. De ce ravage va naître une œuvre majeure de la littérature française. » Et je trouve que ce dernier point n'est pas tant présent que ça, à part des lettres parfois en surimpression sur le visage de l'autrice, qui n'est pas toujours les effets les plus réussis, même s'il y a des scènes qui sont effectivement très jolies et très bien filmées, comme tu le disais, Alexia. À part ces lettres en super impression, elles sont très en arrière-plan, et en fait on voit plus le portrait toxique d'une relation mère-fille qu'autre chose. Et là, c'est là que je passe à un point positif, c'est que je trouve que la peinture de cette relation, est dans une époque qui pourrait être la nôtre ou une autre. Ce qui est aussi intéressant, et là où le film ne pêche pas trop, c'est que, certes, il est fondé sur la parole, mais il va aussi compter sur les regards, sur les sourires, sur l'échec de la communication parfois entre ces actrices, sur leur silence. Et ça, c'est ce qu'il y a en son cœur. Et puis, il y a ce que tu disais, Cassien, donc autour de ce cœur du film, qui sont les scènes de genre, en fait, qui sont tout autour du film, qui sont des tableaux vraiment, on dirait des tableaux hollandais, en fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la mise en scène du quotidien en arrière-plan, qui adoucit la tension du film. Un film qui capte extrêmement bien la lumière, je trouve, hein, très intelligemment, qui saisit la minéralité des paysages, comme la réalisatrice le dit, et qui peut, sans faire de la psychanalyse de comptoir. Psychanalyse de comptoir, renvoyée à la à la fondamentalité, aux émotions profondes, parce qu'effectivement les lieux, il y a un vrai travail des lieux, et les lieux où le film est tourné ne sont jamais genre gratuits.
Alors moi j'aimerais juste clarifier du coup ce que je disais tout à l'heure sur la question historique.
Ouais.
C'est surtout la lecture en fait. Moi j'avais étudié juste les femmes à l'époque moderne avec un programme de l'ENS justement. Et en fait je trouvais que c'était justement dans les moments blancs que c'était intéressant, ces moments de tableau où ils montraient la présence des nourrices, le fait de pas élever par exemple. Il y a aussi les discussions avec la cousine qui je trouvais assez intéressante. Sur les différentes possibilités pour une femme, le fait d'aller en couvent, mais on n'a pas forcément l'argent, le fait de se marier, mais on n'a pas forcément la dot. Toutes ces questions-là, en fait, de quelle place ont les femmes, que parfois le couvent peut être un espace de liberté, ce qui peut paraître assez étrange, mais ça, c'était assez intéressant. Néanmoins, je trouve que c'est assez compliqué en tant que spectateur lambda, tout simplement de ne pas arriver avec un programme d'histoire, de voir ces choses-là. Et je trouve qu'il y avait des films qui arrivaient beaucoup mieux, comme tout simplement Le Portrait de la Jeune Fille en Feu, qui arrivaient très bien à nous placer dans l'époque et à voir les enjeux, tout en n'étant pas caricatural et dans une analyse plutôt fine. Et là, c'est peut-être pas assez bien. Surtout que peut-être que ça se focalise sur trop de choses, justement sur cet aspect-là, plus sur la question des lettres, qui est finalement assez éludée, à part à la fin. Je crois qu'ils font une réflexion comme si elle devenait écrivaine. C'est un peu...
Il y a un petit carton à la fin.
Oui, voilà.
Qui dit, voilà, elle a gardé les lettres. Et...
Mais du coup, il y avait des moments très bizarres aussi où ça faisait très documentaire, les moments de surimpression où on montrait directement l'écriture des lettres. Ça donnait vraiment l'impression d'un docu-fiction.
Ouais.
C'était très étrange, mais voilà.
Moi je suis d'accord que c'est vrai que ça aurait... Enfin, l'aspect historique, du coup, je comprends bien ce que tu veux dire, et il y a effectivement des choses intéressantes parmi ce que tu as cité, mais d'autres trucs, par exemple, la présence des nourrices ou quoi, oui c'est bien, mais après c'est assez... je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est assez commun dans les films d'époque, et c'est un de mes problèmes avec le film, en fait, c'est que, alors, de fait, c'est vrai qu'il y a des très beaux plans, faut le dire, et vous l'avez dit, la photographie est assez réussie, il y a des plans larges sur des paysages qui sont vraiment très jolis, par exemple, mais à côté de ça, je trouve le film assez quelconque, et c'est mon problème avec les films d'époque et les films de costumes de ce style, c'est qu'ils sont, quand ils sont pas... très bon, et en fait tu l'as dit, c'est plus moyen que vraiment mauvais, hein, je le précise, c'est que c'est très interchangeable, quoi. Il y a pas de personnalité, il n'y a pas de vraie proposition originale d'écriture ou de mise en scène, et à part prétendre au César des meilleurs décors ou costumes l'année prochaine, et à la limite meilleure photographie, le film est, je trouve, assez lisse et oubliable à plein de points de vue, quoi.
Ouais, moi je suis d'accord, je sais que j'ai aussi trouvé un peu pauvre du point de vue du scénario, en fait, parce que je pense que la réalisatrice, on se voit tout de suite dans le résumé, elle a choisi de se centrer sur la relation entre la mère et la fille, et du coup plusieurs fois dans le film, surtout quand on a lu les lettres, on est un peu déçu de voir d'autres relations qui sont censées se nouer entre Madame Sévigné et les autres, qui sont pas vraiment développées, donc notamment la relation avec Madame de Lafayette. Il y a plusieurs moments dans le film où elle semble presque se détourner de sa meilleure amie ou ne vouloir lui parler que d'elle, alors que pourtant dans les lettres il y a beaucoup de moments où elle raconte à sa fille des longues discussions qu'elle a eues avec Madame de Lafayette à propos des problèmes de Madame de Lafayette. Donc c'était aussi une petite déception, et surtout, alors c'est peut-être une frustration personnelle, mais cet effacement de Charles de Sévigné qui était, ouais. On avait des passages absolument incroyables dans les lettres par rapport à Charles, drôle. Qui sont, ouais, c'est vraiment un personnage drôle, comique, et j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas assez exploité, en fait, ce potentiel comique de Charles.
Oui, c'est vrai que le film n'est pas drôle, en fait.
Oui.
Mais nonobstant, je trouve que l'acteur qui joue Charles joue vraiment bien.
Oui.
Je trouvais
oui.
que ça lui allait très très bien. Je trouve que, par contre, le casting était vraiment bien sélectionné, mais ouais, les acteurs, c'était pas forcément au top, la direction ouais. d'acteur n'était pas ouais. incroyable. Mais d'ailleurs, il y avait aussi un truc très bizarre avec le scénario, et qui était pas on sentait qu'il voulait faire en sorte que les spectateurs comprennent très vite qui étaient les personnes, et ça faisait des choses un peu bizarres où elle disait du genre Madame de Lafayette pour parler à Madame de Lafayette, mmh. un peu comme si je disais bonjour, enfin comme si je disais Louis Rubelin, Jean-Marc Sel. Et du coup ils disent souvent leur nom les uns aux autres et ça crée un peu des moments un peu bizarres.
Oui, c'est vrai.
de juste pas très naturel.
Ouais, et ouais. Puis dans les dialogues, c'est ça a donné des scènes vraiment sur le bon problème avec les dialogues, qui est un peu la niaiserie du film par moment aussi. C'est typiquement La Rochefoucauld qui dit Maxime sur la liberté, et il y a Sévigné qui dit oui, il y a pas que l'illusion de la grâce qui nous permet d'être libre. C'est La Rochefoucauld dit ah oui et quoi donc? Eh bien je ne sais pas. Écrivez des romans comme Madame de Lafayette. Et ah, c'est vraiment, enfin c'est pour les gros sabots didactiques
et
en
Fontaine
plus de ce que
qui
tu dis.
Récite une fable.
Ah oui, ça c'est
il y a plein
était...
de trucs comme ça quoi.
Mmh. Ouais.
Mais non, mais après ce qui est intéressant par contre, si on admet passer la frustration effectivement, bah, qu'on se dit bon bah, on va pas rire quoi, alors que c'est dommage pour un film qui est fondé, enfin qui est théoriquement fondé sur une autrice qui était sur le bel esprit, etc., façon un peu ridicule, là, le film de Patrice Lecomte. Mais ce qui est intéressant, bah, c'est ce choix cinématographique fait pour rendre à l'écran la toxicité. Et effectivement, Alessia, tu disais que c'était des choses qui étaient presque dérangeantes, mais elle va reprendre même les façons, les symboles pour filmer un couple, en fait, par moment, entre donc, Anna Girardot et Karine Viard. Et on aura un cadre très serré, très souvent la caméra ne va pas descendre en dessous du buste. On a des gestes de complicité qui sont effectivement des symboles qu'on a l'habitude de voir entre deux personnes, mais dans un couple. Et ici, ce choix nous montre ce qu'elle, la réalisatrice, a pu lire dans les lettres, à savoir cette relation toxique, obsessionnelle, lui dit la marquise de Lafayette à un moment. Et puis, ce qu'il y a bon, d'intéressant, c'est que les cadres resserrés, c'est aussi un moyen de genre, refuser le spectaculaire. Je trouve, avec ce plan caractéristique au début qui ne filme pas le feu d'artifice à Versailles, mais les deux femmes sur le bord du lac. On n'a que le reflet du feu d'artifice. Alors, c'est peut-être une question de moyens financiers, mais c'est aussi un moyen fort de faire du film un drame psychologique avec un nombre... Enfin, voilà, ça devient vraiment un drame psychologique. Mmh. Ce que je regrette, parce que ben, c'est pas du tout ce qu'il y avait de plus chouette à adapter dans Sévigné. Mais donc avec un nombre d'actrices hyper restreint et très bien casté, comme tu disais Cassien, je suis vraiment d'accord. Mais c'est en cela que bah, c'est son originalité, c'est pas une débauche de costume en fait. Ça nous rend compte aussi un peu du fait que Sévigné vit hors de la cour. Mais ce manque de moyens, et c'est pas du tout quelque chose que je reproche aux films d'habitude, mais des fois il nous sort un peu du film, c'est-à-dire qu'un des seuls plans larges qui nous permet de respirer un peu, même si c'est à travers des arbres, c'est celui de l'arrivée à Grignan. Et en fait, bah, il n'y a pas eu de retouche. C'est-à-dire que le plan large du château de Grignan sur la colline qui est très beau et tout, en fait il y a les maisons qui ont été bâties beaucoup, beaucoup plus tard en fait, le plan contemporain en dessous, et ça sort un petit peu, ou encore quand la cousine fait une lecture de La Princesse de Clèves, c'est un bouquin qui est, enfin il y a un problème d'accessoires dans la mesure où en gros il est un peu trop moderne au sens où il est trop vieux pour les personnages, c'est-à-dire qu'il a, c'est un livre qui a vieilli pour nous et qui est un livre du 17e siècle tel que nous on pourrait en avoir, mais en 2024. Mais qui n'est pas... Mais bon, c'est des petits trucs, mais c'est des petits détails qui font que bon, bah, ça nous sort un petit peu du film quand même par moment, je trouve. Mais bon.
Et juste, oui, le didactisme que vous soulignez, qui effectivement apparaît à quelques moments, je trouve qu'en même temps, paradoxalement, d'un autre côté, il y a un petit côté private joke avec des gens qui seraient plus familiers avec l'œuvre. Par exemple, je sais pas, des cagneux, enfin voilà.
Au hasard.
Par exemple, à un moment, vers le début du film, où on a Madame de Sévigné qui est avec son fils, et où elle lui dit un truc du style « Ah, vous avez vu Ninon ?» Et ça ne serait pas du tout développé, alors que dans les lettres, c'est une intrigue qui est assez marrante. Il y a une lettre qui est génialissime, et j'aurais tellement aimé qu'il y ait une scène où elle l'écrit, ou même où elle la raconte. Quoi. C'est tellement marrant. Et là, on ne le voit pas du tout, et c'est juste... limite comme un petit clin d'œil, et bah c'est pas intéressant quoi, un clin d'œil comme ça quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est une des scènes à laquelle je pensais en disant que j'avais été déçue du développement de Charles.
Mais il rate justement, je trouve un peu le. Bah justement, c'est une volonté de déconstruire le mythe de Madame de Sévigné, et ça le construit un peu, dans le sens où justement, bah sur l'écriture des lettres, ils sont pas très problématisés. Il montre Madame de Sévigné qu'il écrit d'une traite, il parle pas du tout du fait que c'est le construisait, que s'il y avait vraiment une construction littéraire et esthétique. Ouais. Et aussi, il y avait une scène. Où Madame de, bah c'est Madame de Grignan qui fait une remarque qui est dans les lettres de sa mère, et les autres parlent des lettres de sa mère, et sa mère s'énerve parce que Madame de Grignan a montré ses lettres à quelqu'un d'autre,
oui.
Alors que Madame de Sévigné lisait ses lettres dans ses salons, ou tout du moins on pense que c'est le cas. Du coup, je trouvais qu'il ratait un peu le fait de, aussi de vouloir interroger notre rapport à l'écriture et le fait que c'est pas forcément une écriture intime, mais une écriture qui était partagée. Et ça, ça aurait pu être plus intéressant, parce que finalement, c'est aussi ça, c'est pour ça que ça reste dans un cadre presque trop intimiste, alors que ça aurait été aussi un moyen, en fait, de réinclure les personnages de Lafayette, de La Rochefoucauld, en fait, aussi dans l'écriture des lettres de Madame de Sévigné.
Oui, complètement. En fait, on se demande un peu pourquoi elle a choisi Madame de Sévigné pour une histoire qu'elle aurait effectivement pu raconter de façon ultra contemporaine, en fait. Elle aurait pu la filmer dans une ville aujourd'hui, quoi. C'est tout à fait plausible, en tout cas, ce personnage.
Ouais, elle choisit de raconter quelque chose qui est assez anecdotique s'il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. Et en plus, quand elle le vend en disant qu'elle veut montrer en quoi ça a fait d'elle... Une femme de lettres, une écrivaine, etc., bah, c'est pas quelque chose qui ressort véritablement du film, en réalité.
Mais, non, et puis moi, effectivement, je le disais avec la réplique que je citais tout à l'heure, c'est que tout en jouant la carte de la toxicité, de la tension et tout, des fois, le bas blesse vraiment en termes de niaiserie, quoi. Tout le passage en Bretagne avec la jeune fille, là, s'il est intéressant sur le plan d'anthropologie historique, on va dire, sur le plan cinématographique, genre la chanson qui était juste relou, mais dans l'ensemble, ça se rattrape aussi, certes, par moments, quand ça laisse cours à la beauté du texte. Je trouve que quand il y a la voix off d'une lettre sur un plan en mouvement sur des arbres, au début, je me suis dit, c'est banal, et en fait, ça prend son sens et son intérêt quand on y entend Madame de Sévigné qui parle de ces arbres et qu'on se. Enfin, c'est probablement des arbres qui étaient au moins plantés déjà à l'époque. Et ça c'est intéressant, mais je trouve que ça, on y revient, ça laisse pas. Et je veux vraiment pas qu'on fasse vraiment ceux qui les avons étudiés et qui critiqueraient à partir de ça. Mais ça manque, de la fantaisie, même par moments inquiétante de Sévigné. Genre, je sais pas, la figure de l'homme noir d'une telle part, qui a une vision qui est là un peu fantasmagorique, mais vraiment inquiétante, fantastique en fait, qu'on n'a pas du tout dans le film. Et on manque aussi parfois la violence des lettres, au moins au début. Je disais vraiment, Cassien, elle se met à écrire un peu du tac au tac la lettre du départ de sa fille. Et il manque un lyrisme, une violence qu'il y a dedans en fait. Elle est vraiment un peu bourgeoise en fait, la dame, alors que c'est censé être une grande dame, quoi, si on essaye de se mettre dans l'esprit des personnages. Par moment, le bel esprit n'est pas assez souligné, le jeu, je le disais, n'est pas excellent, toujours, sauf la confrontation finale, je trouve, entre Madame de Lafayette et Madame de Sévigné. Là, c'est vraiment pas mal, dans un salon qui est éclairé par une lumière genre bleu blafarde, triste, là, il n'y a aucun effet spécial pour rajeunir le lieu, qui est à la limite de l'anachronisme, mais qui, pour le coup, je trouve que ce refus d'une précision extrême des décors est aussi intéressant, parce qu'on revient sur ce côté, le décor va servir de théâtre ou drame psychologique intime des personnages, quoi.
Ouais, moi, plus généralement, c'est pas que sur ce film-là, mais c'est pour moi un bon exemple, c'est que moi, je trouve que c'est pas parce qu'on fait un film qui se passe dans un temps vieux qu'on doit faire un vieux film. Et c'est-à-dire que là, on dirait pas simplement que le film se déroule en 1671, mais on dirait qu'il aurait carrément pu être réalisé en 1671. Ce qui pose problème quand même. Enfin, tout dans la musique, le jeu, la mise en scène, le rythme, c'est très poussiéreux et tout sautant, quoi, je trouve. Et ce, jusqu'au traditionnel écran-titre pré-générique de fin, qui décrit effectivement Madame de Sévigné comme un écrivain. Et pas une écrivaine, et je veux dire, on est en 1950 pour ne pas féminiser écrivain. Enfin, je trouve ça très bizarre, et je me suis dit en marquant ça que ça résumait assez bien le film en somme. Encore une fois, c'est pas un film catastrophique du tout, mais je pense que je l'ai déjà oublié à peut-être 96% précisément.
C'est vrai que c'est un peu un film La Gare des Michards en fait,
ouais, clairement,
dans un sens. Mais si je peux dire un dernier truc, je trouve que. Encore un coup sur les actrices. Karine Viard, elle est assez bien dans le côté Daron à une boum par moment, notamment dans la scène de bal au tout début. Et tu vois tout ce qu'elle peut avoir, genre d'étouffant, en mode l'araignée là, de Louise Bourgoin, maman, les énormes araignées comme ça. Là, quand elle monopolise la parole, quand elle lui dit vous avez perdu vos rondeurs, mais elles reviendront, petit smiley. puis ça montre assez bien le côté sensu, Remora, enfin, les petits poissons là. Qui se colle au requin. Je veux dire, dans le mode, elle se tue aussi l'une l'autre, en fait, et c'est un regard qui est parfois assez, assez malin. On peut, je trouve, aussi questionner le rôle de Grignan, qui est parfois hors champ, et on se demande vraiment. Le film prend pas parti sur lui, ça, j'ai trouvé ça intelligent. Il est pas présenté genre comme un antagoniste, genre le méchant du film, quoi. Il est présenté quand on est vraiment du point de vue Madame Sévigné, pardon. Mais dans les faits, il est une présence finalement assez neutre sur laquelle on peut guère se focaliser. Et voilà, on peut conclure sur... enfin, le film est quand même... enfin, il y a des petits trucs qui sont quand même intelligents, mais... enfin, c'est pas juste bof, quoi, mais...
et Grignan, qui est joué par Cédric Kahn.
Oui, tout à fait.
Marrant.
Qui revient toujours.
C'est fou, hein.
Qui
ne cesse on a de tellement parlé de lui.
Oui, 20 épisodes, quand même. 2 films de lui et un film où il joue.
Si, moi, si je pourrais dire...
Oui.
Je pense qu'ici, il y a des gens qui sont vraiment passionnés de costumes. Il faut aller le voir parce que, par contre, c'était balèze. C'est qu'à chaque scène, il y avait un costume différent. Il y a vraiment, ouais, un gros travail dessus. Et sur le maquillage aussi.
Oui.
Ça, je trouvais ça très dépaysant. Il y a un moment où Madame de Grignan se fait maquiller. Ouais, et ouais, c'est pas du tout la vision qu'on a du maquillage actuellement.
Oui.
Elle se fait même faire des veines bleues pour voir à quel point sa peau est blanche.
Ouais.
Et je savais pas du tout que ça se faisait. Du coup, j'ai appris un truc.
Je pense que c'est assez bien documenté. Ouais, c'est...
ouais, ouais, en fait, on sent qu'il y a cette volonté d'être bien documenté. Et c'est dommage parce que du coup, c'est... le rythme n'est pas assez soutenu et du coup, permet pas assez de s'en rendre compte et d'avoir ça en plus, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que les robes, je me suis fait la même réflexion. C'est In the Mood for Madame de Sévigné. Bref, sur ce, eh bien, c'est donc la conclusion de notre débat sur Madame de Sévigné, qui est en salle depuis le 28 février, mais je ne sais même pas s'il le sera encore quand l'épisode sortira. Donc, courez-y, voilà, pour avoir cette expérience. Avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Alexia.
Pour ma part, notre JDR approche donc sur sport et radio, donc je vais vous conseiller quelque chose un peu sur le sport. C'est 21-25 qui est en ce moment sur Netflix. C'est une série coréenne qui porte sur l'escrime. C'est un sport qui n'est pas... on n'en parle pas beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant puisqu'en plus, la série se passe dans les années 90. Donc ça permet aussi un peu de redécouvrir l'ambiance des années 90, l'escrime, d'apprendre pas mal de choses. Donc je recommande cette série.
Merci beaucoup. Le conseil de Thomas.
Je reste dans l'ambiance de ma chronique et vous invite à aller voir un magnifique film, Équation à un inconnu, où François Abou a aussi fait la cinématographie. Il est disponible sur la Cinéthèque et c'est un véritable joyau, encore une fois, du cinéma porno homosexuel des années 70. La composition est juste impressionnante, vraiment. Enfin, c'est un film qui est empreint d'une mélancolie assez terrible, avec des lectures de lettres et aussi des passages assez expérimentaux, à vrai dire, avec notamment des sons de barque qui sont assez fascinants, et aussi des reconstitutions, pour rester dans un esprit 18e, des reconstitutions de boudoirs à la Sade. Enfin, il y a certains dispositifs optiques dans Équation à un inconnu qui peuvent rappeler la philosophie dans le boudoir, donc courez-y, enfin allez sur la Cinéthèque pour aller voir ce joyau sauvé par Yann Gonzalez, en fait.
Merci beaucoup. Le conseil de Cassien.
Alors moi, je vais vous conseiller d'aller voir ou peut-être revoir Valmont de Milos Forman, qui a été assez peu apprécié et que j'aime beaucoup. Donc voilà, une adaptation assez libre des Liaisons dangereuses. Merci. J'avais un blanc et que j'aime beaucoup personnellement.
Merci beaucoup. Le conseil de Nathan.
Alors moi, mon conseil, c'est Dans la peau de Blanche Welbeck, et je suis le premier surpris de conseiller ce film. Je suis allé le voir résolument pour la vanne, bourré, et je pense que c'est le seul moment où il faut aller voir ce film. Encore aujourd'hui, j'arrive pas à savoir si mon conseil est second degré pour la blague ou si j'ai vraiment apprécié le film à un certain niveau. Donc on va voir ça ensemble, je vous donne le pitch et vous allez me dire si ça vous donne pas envie. Blanche Gardin est présidente du jury d'un concours de sosie Michel Welbeck en Guadeloupe, et ce dernier décide de l'accompagner là-bas. Et à partir de là, ça part en meurtre mafieux, discours anticolonialiste, Welbeck bourré au rhum qui bave et rêve d'explosion, qui rencontre le sosie de François Hollande, se voit proposer un rôle par Gaspard Noé, pendant que Jean-Pascal Zadi, essaie lui aussi de décrocher un rôle dans le même film. Ensuite, gigabat trip aux champignons de Blanche Gardin et Michel Welbeck qu'on retrouve en haut d'une armoire. Bref, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, c'est cringe, c'est bizarre, c'est perché, c'est mal filmé à l'iPhone, mais je pense que qu'on le prenne au premier degré, ce qui est sans doute problématique à plein de moments, ou au second degré, auquel cas c'est une expérience sensible et formelle unique dans l'histoire du cinéma, dans les deux cas je pense qu'on rit autant. Et donc mon conseil, c'est de le voir, peut-être pas tout de suite, pas la peine de mettre 10 balles là-dedans et de donner de l'argent à Michel Welbeck pour le voir se donner une caution décoloniale, mais attendez un peu, chopez-le en streaming, parce que je pense que vous serez pas déçus quand même. Voilà.
Merci beaucoup. Enfin, mon conseil à moi, c'est un film allemand, La salle des profs, qui est en salle depuis mercredi dernier, donc depuis une semaine, et que j'ai vu ce week-end et qui était une grosse claque, en fait. C'est un thriller qui se passe dans un collège. En fait, le pitch est simple, c'est qu'il y a des vols qui sont commis, des petits vols, une somme d'argent plus ou moins importante, de trucs, dans la salle des profs d'un collège. Et ça va construire une tension tout à fait inattendue et vraiment hyper prenante sur toute la durée du film. C'est servi par des interprètes absolument remarquables. L'actrice principale, donc j'ai évidemment oublié le nom, est... vraiment très très doux, je crois qu'elle a eu le prix d'interprétation à Berlin et qui est complètement mérité parce que c'est vraiment exceptionnel. Ça dit, c'est politiquement, c'est très très intelligent, très fort aussi, donc c'est une expérience sur le fond comme sur la forme qui est qui ne laisse vraiment pas indifférent et qui, je pense, est un des meilleurs films que j'aurais vu cette année. Voilà, j'hésite à en reparler la semaine prochaine dans une chronique, on verra bien. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver en tout cas sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les quatre, Alexia, Thomas, Cassien, Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci encore vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour parler, entre autres, de Django la Domani. Et comme d'habitude, ce sera sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit nos joints, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Vive le cinéma, vive le comptoir du cinéma. Et vive Transistor.